BFM Bourse, l'écho du monde.
Ce sont les prix à la consommation qui, ça y est, ont été publiés. Dernier chiffre d'inflation donc pour les États-Unis avant la prochaine réunion de la Fed. C'est pour ça que tout le monde le regarde avec beaucoup d'attention. François Rimeux est avec nous pour Crédit Mutuel Asset Management. Bonjour François.
Bonjour Guillaume.
Alors, est-ce que vous êtes un peu, un tout petit peu quand même rassuré par ce chiffre des prix à la consommation ?
Non, pas vraiment. Sorti très légèrement. Il n'y a pas beaucoup d'écart par rapport à les économistes. Alors oui, on y a. Mais quand on regarde la partie.
Oui, François, on va essayer de rétablir un tout petit peu la liaison. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est très haché là. Alors, quitte à le faire au téléphone d'ailleurs, mais oui, on a des prix à la consommation qui restent, c'est vrai, au-delà des objectifs de la Réserve fédérale américaine, qui progressent sur un an, ces prix à la consommation de 3,4%, et sur un mois, ils réaccélèrent même un tout petit peu. Donc, ils se stabilisent sur un an, mais sur un mois, ils réaccélèrent un tout petit peu, ce qui est donc relativement moyen. Alors, on verra comment les marchés font évoluer ou pas leurs anticipations vis-à-vis de la Réserve fédérale américaine. Ce sera mercredi, ça prochaine réunion. Et là où on doit, et vous avez raison, de relativiser ce chiffre des prix à la consommation, là où on doit être très prudent et très nuancé dans notre appréciation, c'est qu'il s'agit des prix à la consommation du mois d'août où les prix du pétrole étaient bien inférieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. On était souvent au mois d'août, la plupart du mois d'août, sous les 90 dollars. Depuis, on a pris presque 20 dollars sur le pétrole. Autrement dit, le chiffre qui sera publié du prochain mois, du mois de septembre, dans un mois, lui reste d'être beaucoup plus sévère et dur à digérer. François, je crois qu'on vous a retrouvé. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit là sur l'impact que pourrait avoir ce chiffre qui vient d'être publié sur la prochaine réunion de la Fed ? Est-ce qu'on va encore plus qu'avant vers une hausse de taux ou peut-être un tout petit peu moins quand même ?
Non, un peu plus qu'avant. Quand on écoute le discours de Warsh et Jackson Hole, il avait un peu conditionné la hausse de taux au chiffre d'inflation. Et ce chiffre d'inflation, il a enterré la hausse de taux. On a une croissance nominale qui est très forte. Il n'y a pas vraiment de raison pour la Fed de ne pas monter les taux ou alors de risquer une quantification des hausses de taux et une pression sur les parties longues qui soit trop forte.
Mercredi, donc, la Fed avec des cours du pétrole. Alors, qui aujourd'hui, ça s'agisse un peu, mais quand même compliqué. On était à 108 dollars tout à l'heure, le baril de Brent, on est à 104. Le gallon de gasoil, ben, un record aux États-Unis à 2 mois des mi-termes. On est à 6 dollars pour la première fois, le gallon de gasoil. Pourquoi la production américaine de pétrole n'arrive-t-elle pas à compenser, au moins pour les Américains, les difficultés actuelles du marché ?
Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est que pour investir et pour mettre en place des investissements de cette nature-là, il faut avoir une probabilité importante que le prix du pétrole reste élevé pendant toute la durée du contrat. Et ça, aujourd'hui, les investisseurs, ils n'ont pas vraiment cette visibilité-là. Donc, aujourd'hui, ils préfèrent couvrir leur production, quitte à être certain que les prix du pétrole restent élevés pour eux, mais ne pas prendre le risque d'investir très longtemps et prendre le risque de voir les prix du pétrole rebaisser. L'autre problème, c'est qu'on a des problèmes structurels. Hein. Les pipelines ne peuvent pas vraiment gérer une production très supérieure. Et on a des coûts pour augmenter la production qui ont fortement augmenté avec la hausse de tous les matières premières.
François, c'est vrai qu'on a vu le taux 10 ans américain, notamment avec les derniers chiffres qui sont parus, notamment ceux d'inflation, s'envoler bien au-delà des 4,9% avec les 5% qui sont maintenant dans toutes les têtes. Est-ce qu'il y a un niveau précis, une dynamique précise qui indique qu'on passe carrément en position de crise obligataire ?
Non, pas vraiment. Aujourd'hui, on n'est pas en phase de crise obligataire. Le driver principal de la hausse des taux, c'est une croissance nominale qui est très forte. Aujourd'hui, la croissance nominale américaine, sur les 5 dernières années, elle va autour de 6%. Et sur moyenne période, un taux à 10 ans, ça doit valoir à peu près la croissance nominale. Donc aujourd'hui, les taux, ils sont sur un niveau normaux. Et si on prend un peu de recul et qu'on regarde sur les 50 dernières années, on est sur un niveau finalement assez moyen. Il n'y a pas d'incohérence. Et aujourd'hui, finalement, ce qui drive la hausse des taux longs, c'est principalement les anticipations monétaires et cette force de la croissance nominale. Donc oui. Si le gouvernement américain veut vraiment faire baisser les taux, c'est pas très dur, en fait. Il faut faire baisser la croissance nominale. Donc soit la partie inflation, on arrête la guerre en Iran, on convainc les Russes, on arrête la guerre en Ukraine et on arrête les déficits budgétaires et on revient sur une croissance réelle plus faible.
Oui, c'est ce qui sans doute serait le plus efficace. Sauf que pour l'instant, les Américains prennent pas ce chemin, toujours embarqués dans la guerre en Iran. Et puis les Russes, bah voilà, les Américains ont pas l'air de tout contrôler vis-à-vis d'eux. Du coup, le Trésor tente d'intervenir pour lui aussi essayer de calmer les choses. Sauf que ça marche pas. Scott Bessent a annoncé donc 6 milliards de dollars de rachat d'obligations du Trésor par le Trésor lui-même. On a vu que ça a presque fait rire le marché. Sur l'annonce, les taux se sont même retendus. Est-ce que du coup, la balle est vraiment dans le camp de la Fed plutôt que du Trésor ? Est-ce que le marché n'est pas en train d'envoyer ce message, à savoir, non mais toi, Scott, le Trésor, t'es sympa, tu veux intervenir, mais t'as les poches pas très profondes. C'est à la Fed d'agir. Est-ce que c'est ça la leçon à tirer de cette semaine boursière ?
La leçon à tirer, c'est que Bessette a sans doute trop parlé. Il a voulu entre guillemets, prendre une posture à la Draghi, mais sans avoir les mêmes pouvoirs et la même flexibilité que ce qu'avait fait Draghi au moment de la crise en 2011. Là, ils vont endiguer la hausse des taux. Mais il nous donne le calendrier, il nous donne les montants. Il dit que c'est lui la banque, et donc évidemment, le marché va le tester. Et il n'a pas les pouvoirs de lutter contre ça. Donc, s'ils veulent effectivement contrôler la partie longue de courbe, la Fed peut contrôler la partie longue de courbe, il n'y a pas de sujet. S'ils veulent imprimer de la monnaie, s'ils veulent faire les opérations twist, il n'y a pas de problème, ils peuvent le faire. Il y aura un prix à payer sur une baisse du dollar, très probablement, mais la Fed peut le faire. Mais BCE et le Trésor, tout seuls, auront beaucoup, beaucoup de mal à...
Eh oui, ils ont les poches plus profondes, celles de la Fed. Les poches de la Fed sont beaucoup plus profondes pour agir sur le marché, sauf que Kevin Warsh ne veut pas. C'est la différence avec ses prédécesseurs. Il veut laisser le marché faire sa vie, un marché qui ne soit plus piloté, a-t-il expliqué à de nombreuses reprises, par les politiques ou les messages, les forward guidance des banquiers centraux. Bah, voilà, on va voir jusqu'où tout ça nous mène. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés, François. François Rumieux pour Crédit Mutuel Asset Management. L'Union Européenne, elle, alors elle avance, mine de rien. D'abord, la croissance en zone euro est plutôt pas mal, hein. Pas ici en France, où le Bercy abaisse à nouveau pour la troisième fois de l'année sa prévision de croissance pour cette année, la France est vraiment un cas à part en Europe. Pour le reste, on a une croissance qui tient. Et l'Union européenne avance même dans la mise en œuvre du rapport Draghi. On en parlait dans le club d'hier. Et effectivement, l'argument a fait mouche, puisque vous êtes très nombreux sur nos podcasts et replays à consulter, à cliquer dans le club d'hier, toujours disponible en replay sur l'application BFM Business. Ouais, l'UE a mis en œuvre 30% de ce rapport Draghi, selon l'Institut Montaigne. Didier Borowski nous en parlait. Le replay donc est toujours disponible. Wall Street, en forme. Allez, on s'offre une petite hausse. Le S&P gagne 1%.